Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'arbredevie.ch. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et la chance d'accueillir Pascal Gemperli, qui est médiateur depuis plus de 15 ans et qui vient nous parler des conflits. Alors, à moins que vous viviez seul sur une île déserte, je pense que ce sujet est fait pour vous. Et si vous voulez apprendre à comment les éviter et en sortir rapidement, restez connectés, on parle de ça dans un instant. Pascal, bienvenue sur cette chaîne.
Merci.
Et pour commencer, qu'est-ce que le conflit veut dire ou représente pour toi ?
Alors, beaucoup ont une représentation négative du conflit. On considère ça comme une faiblesse ou comme une incapacité à gérer ces situations, ces relations, ces émotions. Personnellement, je le vis aussi comme ça parce que même en tant que médiateur, on ne peut pas s'échapper de son monde affectif, de ses émotions, de ses relations. Donc quand on est nous-mêmes concernés, on agit, je pense, un peu comme tout le monde, un peu comme le cordonnier mal chaussé peut-être. Mais en réalité, il faut considérer les conflits comme quelque chose de positif, dans le sens que ça indique un potentiel de changement, ça indique quelque chose qui ne va pas, on peut améliorer. Et puis le conflit, c'est quelque chose d'humain, de tout à fait naturel. Dès qu'on vit en communauté, il y a des conflits, c'est inévitable, on ne peut pas échapper au conflit. La question, c'est pas est-ce qu'on a un conflit ou pas, mais c'est comment on le gère.
Avant de nous expliquer comment on gère un conflit, est-ce que tu peux déjà nous dire s'il y a différentes formes de conflits?
Alors, il y a déjà au niveau des domaines, il y a plein de domaines où les conflits évidemment peuvent apparaître, que ce soit le voisinage, le familial, le travail, tous les domaines où il y a des humains, il peut y avoir des conflits. Ça, c'est au niveau des domaines. Au niveau de l'apparition, ce qu'on distingue déjà, c'est les conflits chauds et les conflits froids. Un conflit froid, ça veut dire qu'on ne le voit pas, il est quasi invisible parce qu'on ne voit pas beaucoup d'émotions, on ne voit pas de pleurs. Mais il est là, il est présent et les gens qui sont dedans, ils le sentent très très bien. Et puis le conflit chaud, ça veut dire que voilà, il y a beaucoup d'émotions, les gens ils pleurent, les gens ils crient, donc ça bouillonne. Et moi j'ai vu ça dans un conflit, dans une équipe où tout le monde l'a décrit comme ça. Ils m'ont décrit en fait comme une casserole où à l'intérieur ça bouillonne, mais on ne voit pas. Et de temps en temps, ça se lève un petit peu, puis on a un peu de vapeur qui échappe. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui crie ou quelque chose une fois par mois. Mais tout le monde m'a décrit le conflit comme très froid. C'est-à-dire, moi, quand je suis rentré là, et je pense n'importe quel client ou visiteur qui rentrait là, il n'a rien vu. Tout le monde était là, tout le monde travaillait, mais ça bouillonnait. Donc ça, c'est typiquement un conflit froid. Et un conflit chaud, tout le monde doit avoir tout de suite. Ensuite, il y a au niveau de niveau d'escalade, il y a différents niveaux d'escalade d'un conflit où on peut le voir aussi comment il se manifeste. Et puis là, en fait, on voit vraiment les escaliers et on descend les escaliers avec l'évolution du conflit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut anticiper, on peut prévenir justement ce niveau des escalades parce qu'on sait ce qui va venir. Où on voit par exemple de la phase 3 à la phase 4, on passe à un niveau d'escalade où on porte atteinte à l'image de l'autre et on essaye de créer des alliances avec d'autres, on essaye de se renforcer. Et typiquement, ça je pense quasi tout le monde connaît ça, on fait un mail un peu pas très gentil avec plein de gens en copie. Et puis c'est pour ça que je dis on peut anticiper, parce qu'avant d'appuyer sur envoyer, je sais très bien l'impact que ça va faire. Et il y a un moment où on peut l'éviter, on peut prévenir ce prochain niveau d'escalade. Mais voilà, on ne le fait pas parce qu'on est dans le conflit, on est dans les dynamiques émotionnelles du conflit. On appuie sur envoyer, on sait que ça va aller chez le chef, chez le collègue, chez l'autre. Ça va nuire à l'image de, soi-disant, mon adversaire, de l'autre partie avec laquelle je suis en conflit. Et puis j'espère pour moi, ça va créer des alliances parce que là, tout le monde va connaître la vérité. Donc sur ce modèle-là, il y a 9 phases et puis on sent le passage à chaque phase. Et puis n'importe quel conflit, vous pouvez suivre ce modèle, vous allez voir, on passe toujours d'une étape à l'autre. Donc c'est là aussi qu'on peut prévenir la prochaine étape pour éviter une escalade plus loin.
Alors les modèles, c'est bien, mais j'imagine que l'être humain est plus complexe que ça. Y aurait-il peut-être des personnes qui seraient plus sensibles que d'autres à rentrer en conflit?
Alors, il faut toujours être deux pour un conflit. C'est plutôt une question, je dirais, de la constellation. Il y a différents types comportementaux en conflit. On peut être plutôt évitant, on peut être plutôt agressif, on peut être plutôt collaboratif. Et en fonction de ce qu'on est et évidemment de ce qu'est l'autre, on va plus facilement trouver des solutions ou pas. Donc pour ça aussi, il y a des outils, on peut évaluer sa propre manière d'être dans un conflit, son propre type comportemental. Et ça peut aussi aider. En tout cas, dans des équipes, on peut faire des évaluations de toute l'équipe pour voir qui est comment. Et puis ensuite, on peut générer plus de transparence, on peut peut-être communiquer de manière plus constructive une fois qu'on sait que lui, il est plus évitant, l'autre, il est plus en avance, et les deux ne sont pas compatibles au moment où il y a des désaccords. Et ça, quand on le sait, ça facilite la communication et puis pour trouver des solutions. Ensuite, l'essentiel, je dirais, c'est toujours la transparence, la confiance, communiquer positivement, parce que on est tous dans nos situations où on a beaucoup d'émotions, où on a peut-être peur de l'avenir, parce que si j'ai un conflit au travail et ça concerne peut-être, en tout cas je l'imagine comme ça, mon avenir, ma carrière, ça fait peur, je construis un mur et puis on n'est plus accessible. Donc le contexte est essentiel par rapport à mon comportement. Je peux être assez constructive à la maison et peut-être très différent au travail parce que les défis est un autre. Le risque est un autre. Donc le contexte, même si on pense qu'on est constructive au niveau de la gestion des conflits, on l'est peut-être dans un contexte, mais pas dans l'autre. Pour ça, il n'y a pas tellement de personnalité où on pourrait dire, lui, il évite plus facilement les conflits que l'autre. On est un peu comme un vase. Le vase, il se remplit, on a notre vie privée, on a notre vie professionnelle. Le vase, il se remplit avec le stress, les désaccords, les malentendus. Mais à certains moments, il est rempli et puis chaque goutte qui rentre fait déborder le vase. Quel que soit le contexte, même si c'est une situation que je gère facilement dans une situation normale, puisque mon vase il est déjà plein, la goutte elle fait déborder. Donc je dirais pas qu'il y a des personnes mieux que d'autres, meilleures que d'autres, plus qui sont plus capables à éviter les conflits. C'est toujours dans le contexte et dans les dynamiques, dans les constellations relationnelles. Après, ce qui est clair, si on est plus transparent, plus ouvert, plus constructif, plus dans le dialogue, ça facilite à tous les coups, ça c'est sûr, ça c'est la seule certitude, je dirais, qu'on peut avoir.
Alors j'imagine que notre capacité à se remettre en question est une grande valeur à la gestion d'un conflit.
Alors la remise en question est importante, c'est ce qu'on essaye en médiation, c'est un moment clé vraiment dans la médiation, on appelle ça le changement de perspective. C'est que chaque partie commence à mieux comprendre. Peut-être moi, je passe 100% raison suite à un dialogue, un échange, un approfondissement de tout ce qui s'est passé. J'essaie mieux comprendre l'autre. Donc je vais comprendre que peut-être moi, je passe 100% raison et peut-être l'autre, il n'a pas 100% tort. Et comme ça, on peut se remettre en question. Et il y a des gens qui ont peut-être plus de peine avec ça. Et là, ça va être plus facile avec quelqu'un qui accompagne, avec un médiateur ou une médiatrice. Mais les gens qui se remettent plus facilement eux-mêmes en question, c'est clair que c'est un facteur positif aussi.
Donc maintenant, concrètement, qu'est-ce que je peux mettre en place ou faire afin d'éviter de rentrer en conflit ou peut-être d'en sortir plus facilement?
Je commencerai par l'attitude à avoir. On en avait déjà parlé au début pour qu'on comprenne le conflit comme quelque chose de naturel. Conflit, ce n'est pas un problème, c'est quelque chose de naturel. Comment je le gère? Comment je me comporte face au conflit vis-à-vis de l'autre personne? Ça, c'est déjà la base, l'essentiel. C'est ma posture vis-à-vis de la situation. Ensuite, au niveau plus technique, il y a beaucoup d'outils. On pourrait parler de la communication non violente, qui veut donc dire je constate ce qui se passe. Ensuite, j'explique ce que je ressens en fonction de ce qui se passe et je formule une demande vis-à-vis de l'autre personne. Donc c'est une manière très non violente, donc ça s'appelle communication non violente, pour communiquer avec autrui. Où il y a des indicateurs d'humeur, où on peut mettre dans une équipe, ou à l'école, ou même en famille, on met des indicateurs avec du rouge, du jaune, pardon, du rouge, de l'orange et du vert. Et puis là, on met le curseur en fonction de comment on se sent ce jour-là. Et puis comme ça, les autres, ils vont savoir peut-être aujourd'hui, si c'est du rouge, on les laisse plutôt tranquilles. Puis si c'est du vert, il est plus accessible. On peut gérer un petit peu comme ça les situations. C'est organiser un échange. L'essentiel, c'est toujours le dialogue. un conseil de famille, de se réunir. C'est toujours, si on veut une règle d'or, peut-être pour la médiation et la gestion de conflits en général, c'est parler, 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 parler. C'est clair que c'est la règle d'or. Après, parfois, il faut que ça soit un peu accompagné, un peu animé par un professionnel, mais la base, elle est là. Il y a aussi, dans le modèle d'escalade des conflits, on dit d'habitude les premières phases, on arrive à s'en sortir tout seul parce qu'il suffit de parler, de dialoguer, de comprendre l'autre. Puis plus tard, il faut une intervention d'un professionnel. Après, une entreprise, par exemple, pour les réunions d'équipe, elle peut tout simplement agender des points supplémentaires. Au lieu de rester purement dans le technique tout le temps, on peut agender des points comme comment je me sens aujourd'hui, quel est mon défi pour la semaine, comment je me sens dans l'équipe. Et ça peut faire sortir beaucoup de choses. Ça ne veut pas forcément dire que quelqu'un va tout déballer devant tout le monde dans l'équipe. Mais même si on commence à sentir quelqu'un pour la deuxième, troisième fois, il est un peu mal à l'aise, après, il faut aussi agir. Il faut des responsables qui, justement, sont responsables et puis qui, pour ce genre de situation, vont aller voir la personne. Ils vont peut-être voir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je sens que tu as des malaises. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est important. Ensuite aussi, parler de soi-même. Et pas parler de l'autre, parce que chaque fois une accusation, quand je dis tu as fait ça, tu as dit ça, le tue, comme on dit en médiation. Donc il faut parler de je ressens ceci, je constate ceci, parce que le tu, il est toujours pris comme une accusation. Tu as fait cela, l'autre, forcément, il le prend comme une accusation. Après, au niveau des équipes, il y a des jeux à mettre en place, des team building, on peut faire. Une fois par année, de réunir l'équipe et de faire des jeux, des exercices avec. Il y en a beaucoup où, par exemple, on découvre des cartes, on parle de son vécu, ou bien des jeux avec des ficelles, on essaie de construire quelque chose. Il y a des jeux qui sont systémiques, comme on appelle ça. C'est-à-dire, il faut essayer de se mettre en triangle avec deux autres. On les identifie, mais on ne dit pas qui c'est. Donc après, c'est très rigolo, tout le monde rigole, et puis il faut se mettre en place. Il faut sortir parfois un petit peu de la routine du travail, et puis faire un peu de relationnel, parce qu'en fait, les conflits, pour résumer vraiment de manière assez simpliste, mais il y a du factuel, il y a du relationnel. Quand le factuel, ça ne joue pas, on peut parfois résoudre la situation sur l'émotionnel ou le relationnel, ou l'inverse. Si sur le relationnel, ça ne marche pas, peut-être on laisse les émotions dehors, on essaie de passer sur le factuel, en tout cas pendant un moment. Et puis comme ça, il y a les deux niveaux, et un peu jouer, et puis changer entre les niveaux pour essayer d'adoucir la situation. Mais voilà, quand on voit qu'un projet, il ne marche pas, les deux ne s'entendent pas sur les objectifs du projet, bah, faisons un peu de relationnel pendant un jour ou voire une semaine, un peu en fonction de la situation. Et puis tout d'un coup, ça c'est très typique en médiation. Je reçois des gens en médiation, la première séance, ils sont en total désaccord sur un point. Dans la deuxième ou troisième séance, le point, il n'est même plus à l'ordre du jour. Ça ne les intéresse même plus. Parce que c'est le relationnel qui a avancé. Ils ont pris confiance. Donc le point qu'ils avaient au début, pourquoi ils étaient en profond désaccord, il n'existait même plus. Parce que sur l'émotionnel et sur le relationnel, ça commence à, la mayonnaise commence à prendre, comme on dit.
Une fois que tu es sorti du conflit, qu'est-ce qui fait que tu retombes pas dedans? Ou plus ou moins, qu'est-ce qui te permet d'apprendre pour ne pas reproduire les mêmes erreurs?
La question renvoie au développement personnel en situation de conflit. Et en fait, il y a différents types d'intervenir dans un conflit. Il y a le type, on va dire, le plus simple, c'est la force. Quand on a, par exemple, un conflit de voisinage avec des jeunes qui jouent au foot, l'intervention par la force, c'est la police qui intervient. Après, on a l'intervention par une force supérieure. C'est peut-être les parents qui décident, qui disent, maintenant, là, vous faites comme ça. Les enfants, arrêtez de crier, vous faites comme ça. Ou en société, c'est le juge qui va trancher. Donc ça, c'est l'intervention par la décision d'une force supérieure. Et puis après, on a plutôt tout ce qui est négociation, médiation, voire plus loin, réconciliation. Donc en fait, l'échelle, c'est quelle est la contribution des personnes à la résolution. Quand c'est la force, la police qui intervient, ben moi, je contribue pas du tout parce que je subis ce qui me passe. Au tribunal, c'est un peu similaire, c'est le juge qui tranche ou les parents qui décident à ma place. Et ensuite, quand c'est plus médiation, réconciliation, c'est là où je commence moi-même à intervenir pour la solution de ma situation. C'est moi qui décide les résultats de ma solution en accord avec l'autre, à l'amiable avec l'autre. Et c'est là où on a une évolution personnelle. C'est là que je commence à comprendre parce que pourquoi je fais comme ça, pourquoi je me suis comporté de telle manière, pourquoi l'action de l'autre m'a tellement blessé. Et on commence à mieux connaître soi-même. On commence à mieux connaître soi-même et mieux connaître l'autre. Et on commence à comprendre comment je réagis moi face à certaines situations. Et quand on saisit ça, c'est là qu'il y a une évolution personnelle. Et ça peut empêcher la prochaine fois de retomber dans le même piège. Il y a des médiations qu'on appelle plus distributives. Ça veut dire, en gros, on prend ce qui est sur la table et on distribue. Hein, c'est typiquement un divorce où il n'y a pas trop de relationnel à gérer. On regarde juste la maison, le deuxième pilier, etc. Ou dans une entreprise, un projet qui a foiré, comment on peut sauver ce qui reste, c'est distributif. Et puis il y a des approches qui sont plus transformatives. Ça veut dire, on va résoudre factuellement évidemment la chose, mais on va aussi travailler sur le relationnel, sur l'émotionnel, sur l'évolution personnelle. Et donc, pour éviter que le même problème se reproduise, on est plus sur une approche transformative. On n'est pas dans la thérapie, en médiation. On a des outils, on va dire, de psychologie appliquée. On pose des questions pour approfondir. Il y a souvent des pleurs en médiation. Donc il y a beaucoup d'apprentissage. Mais après, quand c'est plus profond, on renvoie en thérapie chez quelqu'un d'autre.
Est-ce que tu pourrais nous partager un exemple concret que tu as vécu, les processus que tu as appliqués et les résultats que tu as obtenus?
Alors, l'approche, c'est toujours la même en médiation. On essaye de mieux se comprendre mutuellement, on essaye de créer de la transparence, on essaye de générer la confiance mutuelle pour que les personnes elles-mêmes puissent trouver la solution. En médiation, l'une des règles déontologiques, c'est que le médiateur, il ne propose jamais. Ce n'est pas comme un consultant qui va vous dire faites comme ci ou faites comme ça. Le médiateur, il ne propose jamais, il pose des questions. Et puis c'est vous-même qui allez sortir la solution à votre situation parce que c'est les parties en conflit elles-mêmes qui sont les experts de leur situation, ce n'est pas les médiateurs. Le médiateur, il est expert du processus. Donc on essaye de créer la confiance avec les parties pour qu'elles puissent s'ouvrir, pour qu'elles puissent mieux comprendre leur propre comportement, l'autre, pourquoi ça nous impacte d'une certaine manière. Et puis après, c'est en fonction du cas. J'ai eu un cas familial où il y avait un passé très lourd à digérer, ça n'a jamais été fait. Donc c'était une médiation un peu plus longue parce qu'il fallait beaucoup de temps pour avoir la confiance, pour en parler. C'était très difficile d'en parler pour cette famille. Quand ils ont réussi, après il fallait un moment pour digérer, pour en parler, pour comprendre, mais pourquoi tu as fait ça? Et puis une fois ils ont réussi, en fait on a pris cet événement. Ils ont noté sur une feuille, en fait c'est drôlement, je demandais quel élément du passé vous souhaiterez vous débarrasser. Et ils ont tous, bon, évidemment, ils ont tous pris le même événement, ils ont mis sur la feuille, on l'a emballé un caillou avec cette feuille et on l'a lancé dans le lac pour dire symboliquement, le passé il est parti, il est jeté dans le lac, c'est du passé. Et c'était un acte symbolique qui était important, qui était très bénéfique pour cette famille, parce qu'il fallait en parler, il fallait avoir confiance pour en parler, ensuite on en parle, on digère, et puis ensuite on peut lâcher. Mais pour lâcher, il fallait passer par toutes ces phases-là. Un deuxième exemple, c'est une entreprise avec une équipe où il y a une nouvelle personne qui avait rejoint cette équipe, qui avait une relation avec un responsable. Et ça a créé beaucoup de méfiance de la part des autres, et ça n'a jamais été vraiment formulé, ça n'a jamais été vraiment discuté au sein de l'équipe. En médiation, ce qui était important, c'était vraiment clarifier les rôles. À nouveau, que les gens viennent. L'avantage aussi de la médiation, on vient ici, on sait que tout le monde vient pour faire la paix. Ce n'est pas comme aller au tribunal, je viens en médiation parce que je veux faire la paix. Donc tout le monde vient en principe avec bonne intention, et on sait que l'autre aussi vient avec bonne intention. Donc il y a déjà cette ambiance constructive. Et donc après, à nouveau, il faut créer la confiance entre les personnes. Il faut être transparent sur tous les éléments. Il faut vraiment dire ce qui nous dérange. Et là, c'est le rôle du médiateur qui va approfondir. Parfois, ça peut être un peu désagréable si on commence à creuser. On dit, mais comment tu l'as senti? Après, il va vous dire quelque chose. Ah ouais, mais je me suis mal senti. Après, le médiateur, il va enchaîner. Il va dire, mais mal, que veut dire mal? Mal, ça veut dire... Oh, j'avais envie de pleurer, j'étais tellement j'ai mal pris. J'ai envie de pleurer, puis qu'est-ce que ça aurait libéré en vous? Donc, on va vraiment creuser, creuser, creuser. Et puis voilà, ça touche les gens parfois profondément. Et donc, dans cette situation d'équipe, Il fallait créer la confiance entre les personnes. Et c'est la première fois ici qu'ils se sont parlé ouvertement pour dire, ouais, mais nous, on l'a mal pris. Et puis en plus, tu connais cette personne. C'était une relation familiale que le responsable avait avec elle. Et puis il fallait en parler ouvertement. Et tout simplement, ils ne l'ont jamais fait. Donc il fallait cet espace protégé pour le faire.
Pascal, déjà un grand merci pour cet échange. Maintenant, pour les personnes qui aimeraient peut-être en savoir plus, en découvrir davantage sur la médiation et peut-être aller plus loin et creuser un petit peu le sujet, est-ce que tu aurais peut-être un livre ou un auteur à proposer?
Alors moi j'aime beaucoup l'approche de la médiation transformative qui est plus axée sur le processus, sur le relationnel. Et là clairement il y a Jean-Paul Lederach, un professeur américain qui a beaucoup écrit là-dessus. Après sur la médiation il y a beaucoup de choses à lire. Moi j'aime bien aussi Dusz von Werth qui est un Suisse, qui est une coryphée dans la médiation, qui a écrit Homo Mediator. Donc c'est plutôt par rapport à l'attitude, c'est plus philosophique, comment voir un conflit, quelle posture face à un conflit, c'est très utile par rapport à ça.
Maintenant, tu sais que cette plateforme s'adresse à tout le monde, mais je pense spécialement aux jeunes qui ont soif d'apprendre et de grandir. Peut-être un conseil que tu peux offrir aux jeunes générations qui nous regardent.
Alors, dans ma jeunesse, moi, je fais du judo. Aujourd'hui, je partirais plutôt sur l'aïkido, parce que c'est plus proche de mes valeurs dans mon métier par rapport à la médiation. Parce qu'en fait, on ne rajoute pas de l'énergie négative. Si quelqu'un nous attaque, on redirige sa propre énergie contre lui. Mais je ne rajoute pas moi de la négativité, je ne rajoute pas moi d'énergie. Et je pense que c'est assez dans l'attitude aussi de la gestion des conflits constructifs dans la médiation, c'est que finalement chacun subit ses propres énergies négatives qui l'amènent. Hein, donc si chacun est constructif, il n'y a pas d'énergie à digérer.
Un grand merci pour ta contribution à cette chaîne. Je me réjouis peut-être de te revoir prochainement sur d'autres thématiques. En tout cas, je te souhaite tout le succès que tu mérites et puis je vous dis à bientôt sur arbredevie.ch.
Merci.